Mais ça doit être par là, hein.
Je sais pas. Cherche de ton côté.
Chacun celui-là. Transformation d'eau en feuille, ça n'a aucun intérêt, non, c'est pas celui-là.
Non, ah, pas celui-là non plus. Allez, oups, du vent. Pour
trouver les saucisses dans le. Non plus, c'est pas celui-là.
Ah, bah non. Ouais.
Pourtant, Lignol, là, je crois. Lignol, tu l'as vu ? Ouais. Il est gentil, mais il parle jamais.
Ah, je pense que je l'ai trouvé, Mathieu.
Oui, c'est celui-là, oui.
Voilà. Ah, voilà. Donc, alors, savoir si on a la gueule de bois, ok. Bon bah, cantrip, bon, moi je le lance, hein, comme ça, allez.
Vas-y.
Hop. Oh, voilà, normalement, si j'ai la gueule de bois, je suis entouré d'un halo lumineux. Est-ce que je suis entouré d'un halo lumineux ?
Pas du tout.
Ah voilà, je te l'avais dit, moi, j'ai pas la gueule plus. De bois.
Oula, regarde autour de nous, là.
Ah oui, par
là,
contre...
Il n'y a plus besoin d'éclairage, tellement il y a de halo lumineux, hein.
Ah ouais, effectivement.
Ils sont tous...
Bon, ça dure combien de temps ? 10 minutes ?
Ouais.
Bon, on va faire un tour aux toilettes, puis on revient.
Exactement. Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et bienvenue à ce numéro beaucoup maintenant.
74, 74, quelque chose comme ça en français, en belge.
On va faire un sort transformé. Chiffre belge en chiffre français.
Je pense que c'est voilà. Compréhension des langages ce soir-là.
Oui, ça va être celui-là, oui, compréhension des langues. Et donc, bien entendu, bonjour à tout le monde, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez, et également quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez. Et bien entendu, si vous êtes en voiture, faites bien attention à vous, les amis. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter en partant au petit matin. C'est pour ça qu'on les met à 8h30 et que Fabrice, généralement passe son jeudi soir à faire le montage. Aujourd'hui, Fabrice, on va parler des sorts. Bon, on a déjà parlé des sorts.
On va parler de la magie, les épisodes. Donc on va faire un épisode magie divine, magie arcanique, donc qui devrait d'ailleurs bientôt se retrouver sur YouTube en version, voilà, on rattrape doucement notre retard, hein, en fonction de les mettre ou pas. Donc voilà, ça arrivera prochainement, très certainement.
Et justement, on a voulu parler là cette fois, alors non pas des sorts les plus puissants et tout ça, mais des sorts les plus étranges. Parfois, il y a même une certaine poésie, je trouve, qui se dégage de ces sorts, parce que la grande particularité de Donjons & Dragons, c'est pas tant le combat, c'est l'extraordinaire ouverture qu'appellent ces sorts. C'est-à-dire que parfois, on va se sortir d'une situation en utilisant un sort qui n'était pas du tout prévu pour cela. Et que c'est un des éléments, je trouve, les plus incontrôlables et les plus enthousiasmants d'une partie.
Ah, tout à fait d'accord. Il y a des sorts, tu vois, ils fonctionnent de telle façon, tu les appliques comme ça, et de temps en temps, tu peux éventuellement les détourner de leur usage principal, bien qu'il y en a beaucoup où c'est, tu utilises comme ça et c'est tout, il n'y a pas de laisser... voilà, on te laisse très peu de marge, et au contraire, tu as des sorts où c'est, invente, tu peux utiliser de telle façon, on te passe quelques limites, et puis c'est à toi d'imaginer ce que tu fais avec.
Bah, il y a le... Moi, je sais plus si j'en avais parlé il y a très très longtemps. J'avais fait un scénario où les joueurs étaient échoués sur une île. Et ce qui se passait, c'est que je voulais faire Predator pour Donjons et Dragons. Et donc, je voulais qu'ils soient dans l'île et tout. Et puis qu'à un moment, ils allaient voir les arbres vitrifiés. Donc, c'est le vaisseau qui s'est écrasé. Là. Et ils sont sur l'île. Donc, ils arrivent après, c'est échoué. Il y a un des joueurs qui fait « Je lance l'évitation », il monte, il regarde autour, je vois quoi ? Puis je fais « Bon, bah, tu vois une île, tu vois qu'il y a des arbres qui sont couchés, et puis au bout de la traînée, tu vois une grande structure métallique. » Puis là, t'as un joueur qui fait « Ah, c'est Predator !» Voilà, bon, c'est fini. Pour l'élément de surprise, fallait repasser. Et c'est vraiment ça. Par exemple, je sais que j'ai eu quand j'avais joué Ravenloft, alors donc le scénario initial, on avait perdu notre livre de sorts, on s'en rappellera de celle-là.
Oui.
Et en gros, on était attaqué. Alors il y avait du, enfin il y avait, voilà, il avait sorti l'argenterie Strad. Et en gros, il y avait plus qu'une seule pièce qu'on n'avait pas faite. Donc on se met dedans, on trouve qu'il y a un passage secret, mais qui s'ouvre de l'autre côté de la pièce. Et là, on a utilisé un sort qui est une sorte de téléportation. Je ne me rappelle plus du nom. Hein, ce qui était une téléportation, mais qui c'est pas d'un point à un autre, c'est que tu te téléportes sur plein de petits points dans une toute petite zone.
Ah oui, oui, je vois Blink, je pense.
Ça devait être celui-là, je m'en rappelle plutôt. Et c'est en utilisant ce sort que finalement on a pu passer de l'autre côté de la porte. Et le sort s'est interrompu et on a pu l'ouvrir et nous avons pu vivre un jour de plus pour nous battre. Donc, et c'est, ça fait, je trouve, c'est vraiment ce charme, ce charme unique du jeu. C'est aussi d'ailleurs pour ça que jouer des lanceurs de sorts, c'est pas forcément évident. Oui. Il y a des joueurs qui, eux, vont préférer être dans le côté des armes ou l'autre côté, parce que je trouve aussi que être le lanceur de sorts, ça en dit beaucoup sur le joueur ou sur la qualité du joueur. Si tu joues un gros barbare, bon bah t'y vas, tu frappes, et puis ton échec, ta réussite, ça va être essentiellement parce que voilà, t'as réussi. Mais le lanceur de sorts, tu sais, t'as toujours pas la peur, mais le fameux « Ah mince, j'avais un sort qui aurait pu correspondre et je l'ai pas fait. »
Oui, ou tu l'as pas préparé ce jour-là.
Voilà, il faut une rigueur, je trouve. Et je comprends tout à fait qu'il y en ait qui se sentent pas forcément à l'aise en jouant donc les lanceurs de sorts.
Bah déjà, un truc très très simple, il y a une différence dans les lanceurs de sorts, c'est-à-dire qu'il y a des lanceurs de sorts qui apprennent très très peu de sorts, c'est-à-dire les sorciers, les warlocks. Donc le terme ne me revient plus en français. Si Mathieu, tu peux m'aider sur cela.
À chaque fois, je...
T'as l'ensorceleur et le sorcereur, je pense, quelque chose comme ça.
Voilà, un des deux. Donc, sous le parchemin du sort de nettoyage de bottes, voilà, on va le...
Mais en gros, pour dire, ces classes-là, eux, choisissent un certain nombre très limité de sorts, ils n'en ont pas beaucoup, et contrairement à ceux typiquement clériques, wizard qui doivent préparer certains sorts, ou même le cléric et druide, une fois qu'ils arrivent à un tel niveau et accès à un nouveau niveau de sort, ils connaissent tous les sorts dedans. Et à ce moment-là, c'est bonjour le catalogue. Donc à chaque fois que tu débloques un nouveau niveau de sort, tu débloques tous les sorts qui vont avec. C'est parfois compliqué à tout lire, et même les sélectionner au petit matin. T'es là en mode, ah, est-ce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça.
Ouais, j'imagine bien, moi, à chaque fois. C'est-à-dire, j'imaginais, c'est le petit matin, t'as tout le monde qui se prépare, et puis t'as le lanceur de sort. Bon, alors, dans le bouquin, je mets quoi, et tout ça. Donc, là, on a le sorcier, on a l'ensorceleur, et puis nous avons le magicien. Donc, sorcier, ça doit être le warlock, mais à chaque fois, je me trompe. Donc, je préfère ne rien dire. Et c'est certain que tu te retrouves avec... Donc cette grosse responsabilité, surtout en plus dans une cinquième édition où les sorts sont quand même sont vraiment importants, je trouve, où il y a vraiment la magie pour le coup a été revue, enfin a été mise comme une sorte de grande force dans cette cinquième édition.
Bah, je t'avoue que vu que je commence avec la cinquième, j'ai pas vraiment joué. J'ai regardé un des anciens documents, tout ça. J'ai vu Taco, des trucs compliqués. Je suis oh non, ça va. Mais voilà, de mon côté, j'ai pas cette optique-là de est-ce que la magie a évolué dans un certain sens. Donc, disons-nous plus, un peu plus, Mathieu.
Mais de toute façon, c'est. Bah, par exemple, tu vois, les fameux sorts niveau 0 et tout ça. Enfin,
les cantrips, il y avait pas ça avant,
voilà,
c'est ça.
Voilà, il y avait pas ça avant, et autant te dire que ça change aussi beaucoup les choses. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus, la magie est pour le coup beaucoup plus accessible par rapport au reste.
Oui. Et c'est vrai qu'avant tu devais les préparer tes sorts, c'est-à-dire que tu voulais trois boules de feu, tu étais obligé de préparer trois boules de feu au matin. Je me souviens parce que j'ai joué un peu au MMO là, et ils avaient gardé ce système là, je sais plus c'est 3.5 ou 4ème édition qu'ils avaient gardé ce côté là dessus, mais c'est vrai que maintenant même n'ayant pas joué, j'avoue que je préfère le côté où tu choisis au moment de lancer ton sort.
Oui, et ça amène aussi je trouve, voilà, donc comme je disais, ça amène une, comment dire, un côté que c'est en fait un petit peu mystérieux à la fois, donc du mage, de cette grande puissance, surtout dans encore une fois dans cette cinquième, et puis aussi c'est là où est la grande force, c'est que tu peux combiner les sorts, avec tes attaques qui te rajoutent des bonus et tout cela, En revanche, bah, quand tu es sur d'autres classes, c'est pas forcément évident que tu aies certaines combinaisons. Et j'avoue que bon, le sort contre sort.
ah oui, le grand débat.
voilà, celui-ci devrait être interdit. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans le jeu. Bon, j'ai toujours eu une sorte de vision de cette magie, surtout donc dans la cinquième, qui est beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça que effectivement, ça peut amener parfois des déséquilibres de personnages à chaque fois quand tu arrives sur des niveaux assez grands. Et puis il y a aussi un autre point avant qu'on attaque notre petite discussion sur les sorts. Un point sur l'évolution des sorts. Et donc rappelle-moi le nom de l'animé, Fabrice.
Ah oui, alors on va parler un peu de l'animé Frieren.
Voilà, Frieren. Donc, alors moi, autant vous dire hein, que les animés depuis Akira, il n'y a pas eu grand-chose. Si, j'ai beaucoup aimé l'attaque des titans. Mais sauf qu'à un moment, bon, je me suis un peu perdu dans l'affaire.
Je pense qu'à plus d'un titre, les joueurs de D&D risquent d'apprécier cet animé. Donc Frieren, ouais, je vous donne le pitch un peu de base.
Vas-y.
On suit les aventures, entre guillemets aventures, d'une elfe magicienne et qui, à la base, donc ça c'est vraiment le premier épisode, elle rentre d'une conquête du roi démon avec d'autres aventuriers. Elle a passé sa vie, elle a passé les 10 dernières années avec eux. Mais pour eux, c'est un énorme temps. Tandis qu'elle, c'est quoi c'est un truc de passage, quoi. 10 ans, c'est pour elle. C'est ça aussi que je trouvais ça intéressant du côté elf. Mais bon, ce qui nous intéresse plus là, c'est côté magie. Et on a tous cette aventure-là où on a quand même un personnage qui évolue dans le temps sans qu'elle-même se rende compte des changements et tout ça. Et donc, il y a parfois un changement avec les différentes époques que tu peux retrouver. Et justement, ça nous amène au point, je pense, que tu voulais parler avec un certain démon.
Oui, que je voulais aborder, parce que c'est mes joueurs qui discutaient de ça vendredi. Et puis, il y en a un qui dit... donc à un moment, y a un démon qui a quoi, 2 siècles qui est libéré ou je ne sais plus quoi et qui arrive, qui utilise sa magie et puis sa magie ne fait quasiment rien.
Oui. En gros, c'était un démon qui était le meilleur magicien démonique et qui avait inventé une magie. En fait, chaque démon se spécialise dans une magie spécifique et c'était la magie la plus destructrice qu'on pouvait. Et à son époque, personne ne pouvait combattre cette magie-là. Et c'est pour ça en fait qu'il a été fait prisonnier parce que personne pouvait le battre.
Et donc, il ressort. Et là, il réutilise sa magie. Ça a plutôt un effet dans le genre pistolet à bouchon. parce que donc ça ne fait quasiment rien. Alors, il est étonné. Et un des personnages dit « Bah oui, mais c'était il y a 2 siècles. Maintenant, la magie a évolué. »
Exactement.
Et cette phrase, elle m'a marqué. Elle m'a marqué parce que la magie dans Donjons et Dragons n'évolue pas. C'est-à-dire que on a les sorts tels qu'ils sont donnés, mais le sort en lui-même, par exemple, n'a pas de... alors, on a juste... Si vous mettez dans un slot de sort un peu plus fort, voilà les dégâts en plus que ça va faire. Mais mis à part lancer plus de dés, ça ne va pas faire grand-chose de plus. Et que effectivement, on n'a pas cette notion d'évolution d'un sort de magie, surtout que... On imagine bien que les magiciens, et on va parler des tout premiers sorts, mais que les magiciens, soudainement, dans leur laboratoire et tout ça, avec leur composante, réussissent à inventer un sort, et c'est comme si c'était « Bon, bah, je l'ai inventé, je n'utilise plus. Enfin, maintenant, j'utilise, j'ai plus rien d'autre à faire dessus. » Et que la notion de perfectionner un sort semble, parce que moi, c'est dans mon souvenir, enfin, me semble totalement absente dans le jeu.
Je pense qu'il y a certains sorts où tu as, la petite hutte là de... je me souviens plus du personnage.
Diamond.
Voilà, c'est ça. Et puis tu as le manoir du même personnage. Donc c'est un peu une évolution de sort, je pense, c'est celui-là. Ou en tout cas, c'est considéré comme tel. Et je pense qu'il y en a 2-3 qui sont peut-être une sorte d'évolution. Et puis surtout, en cinquième, je pense qu'il y a certains sorts, ils ont perdu le nom du créateur derrière.
Oui, ça oui, on a ça. Mais c'est, alors, bien sûr, encore une fois, c'était la... c'était vraiment la réflexion que je me faisais. Et c'est aussi, je trouve, on en a parlé régulièrement dans les épisodes, d'inventer des histoires, des scénarios où tu dois aller chercher une composante ou... Et où on peut se rapprocher de la création d'un sort.
Oui, ça, mais ça aussi.
Je sais pas, tu vois une boule de feu qui ne toucherait qu'un seul type de personne. Tu vois, c'est toutes ces choses là qui. Ah,
tu pourrais très bien essayer de le faire en soi. Hein. Ce serait un sort beaucoup plus haut, hein, forcément.
Oui,
comment c'est fait pour D&D en général? Imaginons, t'as un sort de niveau 4. Tu veux cibler qu'un seul type de personnage, je dirais que ce sera peut-être du niveau 6 à ce moment-là, tu vois. Enfin, faut travailler avec ton MJ, genre de choses. Et éventuellement, il y a certaines tables qui essayent d'adapter, de travailler la magie. Je pense notamment à Critical Role, la saison 2, où tu avais un magicien, et justement, il avait essayé de travailler avec Mercer, donc le Dungeon Master, que pour pouvoir vraiment créer ses propres sorts, ou les changer un peu, leur donner une espèce d'aspect particulier à son personnage, ou même carrément d'inventer des sorts. Et on sait très bien que le Dungeon Master Guide renferme des pépites, et dans ces pépites-là, il y a créer un sort, tout simplement.
Oui, parce que on a dans les jeux, notamment les jeux qui se veulent un petit peu OSR, on a une magie, faut faire attention quand on l'utilise parce qu'elle peut exploser dans la figure. C'est pas le cas dans Donjon. On a l'impression de, si tu veux, le programme est sorti, il n'y a pas de bug. On n'a pas une magie qui est buggée. On a une magie rutilante et tout ça.
Justement, c'est peut-être pour ça, c'est des scientifiques là où le sort, tu vois, que tu utilises et que tout le monde utilise, c'est le sort fini, approuvé, assuré, vérifié. Tandis que si tu crées ton sort, peut-être justement tu peux rajouter un petit élément chaotique les glyphes ou le pattern utilisé par le magicien en cours de création de son sort, tu lances ton D20 à chaque fois, et il y a peut-être, tu fais un ou deux en fonction de là où tu es dans ton avancement, ça se retourne dans ta gueule. Quoi.
Voilà, ou avec des sorts fusionnés, ou des trucs comme ça, je reprends.
Après,
si je
les sorts fusionnés, faut aller doucement, parce qu'il y a toujours des joueurs pour faire ouais, ce sort-là avec cet effet-là, et puis ça, et puis tu te retrouves avec le meilleur sort du jeu, et t'es là, tu fais,
oui, voilà. Ouais. C'est le problème. Faut pas non plus donner les armes pour qu'il y ait un coup d'état sur la table. Je suis complètement d'accord. Mais voilà, c'était la réflexion que je me faisais là-dessus.
Je pense aussi
qu'il y aurait beaucoup de choses à faire en scénario.
Il y a un côté dans l'univers de Donjons et Dragons, ils ont expliqué de pourquoi et comment ils ont bloqué la magie au niveau 9, étant donné que avant dans l'Empire Netheril. Il y avait des magies supérieures, hein. Je pense que j'en avais parlé à l'épisode sur la magie des arcanes. Et il y avait des magies jusqu'à niveau 13, et 13 c'était le dernier sort et l'unique sort du niveau 13 qui avait été créé, c'était justement pour incarner un des dieux, ce qui a créé la chute des Netherils et la catastrophe magique, etc., etc. Bon, je vous renvoie à l'épisode, mais pour dire qu'il y avait des magies supérieures au niveau 9, mais la déesse de la magie a fait « Ah, c'est pas bien tout ça, leur donner trop de pouvoir, ça va pas très très bien, et ils font peut-être tout, n'importe quoi, faudrait qu'ils se calment un peu pour éviter d'autres tragédies, et c'est comme ça que maintenant tu te retrouves à ne plus, entre guillemets, pouvoir utiliser des sorts de niveau 9, et même les sorts de niveau 9, tout le monde peut pas les lancer, c'est ça qu'on oublie aussi. »
Oui, faut un peu attendre. Alors, tu commences par un des premiers sorts que tu as sélectionné. Toi, tu as pris quoi dans les sorts
Moi, j'ai fait un peu deux listes, hein, comme je disais à Mathieu en pré-épisode. Là. C'est que j'ai fait les sorts que je trouvais intéressants à jouer, mais pas les plus OP, hein, enfin les plus puissants, on va dire ça. Mais qu'ils ont peut-être sous-estimé ou qu'ils ont toujours une efficacité quelque part dans le jeu. Et ceux que je prendrais en général assez bien quand je joue en tant que joueur, ou même que j'aime bien voir mes joueurs prendre. Et une deuxième liste qui consiste à plus des sorts roleplay, genre de choses qui peuvent déclencher certains trucs au niveau scénaristique ou en même campagne et genre de choses. Donc je vais commencer peut-être par les sorts que je trouve sympathiques à avoir.
Ouais, vas-y. Alors on précise que tu as les parchemins dans ton coin.
Oui.
Je ne sais pas ce que tu présentes. Peut-être qu'on va présenter les mêmes.
Alors bon, le tout premier, je pense qu'il est assez bien connu, c'est Prestidigitation. Et avec ça, bah, tu peux faire plein de trucs et même prouver que tu maîtrises la magie. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui fait oh, et puis tu fais un sort de magie ou même t'impressionnes un peu le village. Ça sert toujours. Tu peux même allumer ton feu avec ça, si je me souviens bien. Yeah. C'est un sort qui fait tout, tu vois. Ce sort, il est un peu, c'est un peu ridicule parce que tu produis pas beaucoup de magie, hein. Tu peux pas vraiment attaquer avec ça, mais dans certaines situations, ça peut être méga utile.
Ouais, bah, je l'aime bien ce sort aussi. Alors c'est le sort des bas niveaux, c'est le sort oui. de l'entourloupeur aussi, je trouve. Et ce que j'aime bien, parce que c'est si la vraie magie devait exister, je pense que ce serait parmi les premiers sorts qui existeraient.
Oui, oui, ça aussi.
Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors je m'excuse, hein, j'ai encore une toux, donc j'essaye le plus possible de vous épargner et d'épargner Fabrice au montage. Alors moi, pour ma part, j'en ai un autre. Alors je dois t'expliquer une chose, c'est que j'ai mis dans les players sur les pages, et je regarde les pages, et évidemment, j'ai mis lequel j'ai choisi.
Tu n'as pas pris le nom du sort, mais t'as mis la page.
Non,
okay.
Non, non, j'avais mis les trucs. On va commencer quand même, qui est un des classiques, c'est le disque flottant de Tensor.
Ah oui.
Bah, en plus, c'est du niveau 1.
Oui.
Et on a toujours d'ailleurs cette petite affection, je trouve, pour ces sorts de niveau 1. Et là, c'est un sort. Qui crée un plan de force circulaire horizontal d'un mètre de diamètre de 2,5 cm d'épaisseur qui flotte à 1 mètre du sol et tu peux y mettre 250 kg de matériel.
Ouais.
Et donc, et si on pose plus de poids dessus, le sort se termine. Et tout ce qui se trouvait, alors ça, je trouve ça génial, c'est le côté, attention les gars, c'est 250 kg à 251 kg.
Ah, c'est foutu.
Tombe. Et. Ça aussi, je trouve que c'est un sort qui, tu vois, c'est pas un sort de combat, ce qui est,
oui.
On va pas dire ce qui est rare, parce que mais quand il y a beaucoup de sorts, c'est pour amener du combat. Et celui-ci, là aussi, il peut tout faire. Et pour moi aussi, c'est une sorte de la représentation première de la magie, à savoir que ça aussi, si quelqu'un, je dois avoir un magicien devant moi, ce qu'il ferait, il ouvrirait les bras et puis. Soudainement, il dirait, tiens, pose ton sac là. Et il se balade à côté de toi. Alors, le sort dure une heure en plus. Et donc, il reste immobile tant que vous vous tenez dans un rayon de 6 mètres. Et puis, donc, bon, il parle de tous les niveaux et compagnie. Il peut se déplacer sur un terrain irrégulier, monter ou descendre des escaliers. Mais il ne peut pas franchir une différence de niveau de 3 mètres ou plus. Là, on sentait que c'était parce qu'il ne voulait pas que ça fasse style, tiens, voilà un passe-plat pour aller en haut de la... En haut des murailles.
Ouais. Mais ce sort, en fait, si je me souviens bien de l'historique, ça répond à la question de comment on transporte ces foutues pièces de cuivre.
Ah ben, complètement. Là, on est là-dedans. C'est-à-dire, c'est complètement la survivance de ça. Hein. Tout à fait. Et maintenant, effectivement, tu vois, tu pourrais transporter un blessé, tu pourrais transporter plein de choses. Mais évidemment, on est dans ses débuts de Donjons et Dragons. Et tu vois, le simple fait qu'il précise bien où on peut monter ou descendre des escaliers et des pentes, ça, c'est clairement le truc. Bon, comment on fait maintenant pour transporter tout cet argent? Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup.
Oui, donc tant qu'on est dans les sorts un peu niveau 1, tout cela, bon, je vais t'en présenter un, mais bon, on va dans le sort de combat. C'est le sort Shield, le sort bouclier.
Oui.
Que j'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi, qui le prennent.
Oui, mes joueurs.
Oui, voilà.
Donc,
moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de te protéger. Et en fait, les gens, ils pensent à l'attaque qui vient. Mais c'est surtout toutes les attaques jusqu'à le suivant de ton tour. Et aussi, le petit côté intéressant à avoir, c'est qu'il te protège contre Missile Magic, qui est aussi un des sorts de niveau 1 que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que ça permet de briser la concentration d'un magicien, étant donné que techniquement, chaque Missile Magic est censé être une attaque indépendante. C'est-à-dire que le sort de base t'envoie 3 Missile Magic qui touchent automatiquement. Oui. Et c'est-à-dire que tu vas faire 3 tests de concentration. Tu vois, dans les combos un peu. Après, ton missile magique, tu peux le lancer à plus haut niveau et ça fait à chaque fois un dard en plus et donc un test de concentration en plus. Donc, ça, c'est vraiment le côté. Je veux pas que le sort maintenu par l'ennemi soit opérant, donc je balance plein de missiles magiques et à côté, bah, y a le contre assez facile, c'est le bouclier. Donc, ça, c'est ce côté-là.
Ce bouclier, je le trouve en plus très cinématographique.
Oui.
C'est-à-dire que tu vas être touché et soudainement tu dis non, hop, parce que c'est un sort aussi de réaction.
Oui, c'est ça.
Et non, donc ça rajoute plus 5 à ta CA et t'es énorme, plus 5 à la classe
d'armure. Oui, c'est énorme. En même temps, les magiciens, ils en ont besoin.
Oui. Et y a ce côté, je vais être touché. Mais non. Et moi, ça, je l'aime beaucoup parce que c'est ce côté effectivement instinctif. Et y a le projectile magique, effectivement, ça arrête. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce sort de projectile magique parce que là aussi, c'est là où je me rends compte, de toute façon, les sorts que j'aime, c'est vraiment ceux qui sont très, très, très visuels. C'est aussi le sort qui te mettait en avant quand tu étais magicien. Parce que c'était le premier que tu avais, c'était le premier sort offensif que tu lançais bien planqué derrière le paladin et le nain et le barbare en furie. Et ça a aussi cette représentation toute simple, visuelle. Tu peux pas m'empêcher en fait à chaque fois de penser au dessin animé de Donjons et Dragons où il y avait l'elfe qui était celui que j'aimais bien parce qu'il avait cet arc et puis c'était un arc qui tirait l'équivalent de projectiles magiques. Et ça aussi, ça fait partie des sorts qui sont à très très bas niveau.
De toute façon, beaucoup de sorts bien utiles sont à très très bas niveau et t'espères que tu peux les utiliser à plus haut niveau aussi.
Alors, moi je vais t'en parler d'un qui a disparu.
Ah, vas-y.
Oui, et on donc... Oui, qu'on peut retrouver dans le manuel des joueurs de AD&D, deuxième édition. Et c'est toujours Léomund. Et on va la faire, hein, cette émission, sur les grands magiciens. On le rappelle, hein, quand vous avez un nom avec une appartenance de sort, c'est que c'était certes un grand magicien, mais qu'il y a de très très grandes chances que c'était un joueur autour de la table, parce que y a un moment, il fallait bien les écrire, les sorts. Et ce sort, c'est la discussion oiseuse de Léomund.
Discussion oiseuse.
Voilà, donc c'est un sort d'enchantement. Une créature au plus dans un rayon de 10 pieds. Parce que je crois que j'ai une VF canadienne. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce sort? Il distrait les créatures qui y sont soumises en les entraînant dans une absorbante discussion sur un sujet qui les intéresse. Une suite de réactions diverses se produit durant 11 rounds.
11 rounds? Oui, c'est ouais. Tout un combat, ça.
Voilà, d'autres jets de protection intervenant de la manière décrite ci-dessous. Donc, les réactions sont... D'abord, ils vont discuter, conversation, de 1 à 3 rounds. Ensuite, il va y avoir une confusion éventuelle. Alors, je ne sais pas trop, c'est pas très très précis, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais bon. Donc, des rounds 4 à 6, et puis, rage ou lamentation, des rounds 7 à 11. Lorsqu'on lance le sort, la personne commence à parler d'un sujet intéressant au premier chef, là où les créatures devront être affectées. Celles qui réussissent leur jet de protection contre le sort ne s'en préoccupent pas. Les autres commencent à converser avec le magicien, manifestant accord ou désaccord avec la plus grande politesse. Je trouve ce sort complètement improbable, mais j'aime beaucoup, moi, ce côté de où ils doivent discuter. Alors, évidemment, c'est un sort qui a disparu maintenant, mais j'aurais bien voulu connaître la genèse de ce sort-là.
Effectivement, c'est un sort assez particulier, dirons-nous.
Oui, je me suis débarrassé de tous mes sorts de boules de feu et j'ai pris ce sort de discussion oiseuse. Non, vraiment, tu plaisantes. Voilà, ça, je pense que c'est ça comme genre de réaction. Alors, et toi donc, quel autre aurais-tu?
Bah, j'ai celui que tous les magiciens affectionnent particulièrement, ou même tous les gens qui aiment bien les animaux, qui est familiar, donc qui est trouver un familier. Donc celui-là, je pense que c'est certainement le sort que je vois le plus pris quand tu as accès à un sort d'une autre classe que la tienne, c'est-à-dire via éventuellement un certain don dans ta carrière, ou un don, une feat. ou qui te permet de sélectionner un sort dans n'importe où. Et le nombre de gens qui font « Oh oui, un petit animal, tout ça, là, et je peux espionner à travers ses yeux et tout ça. » Tout le monde le prend.
Oui. Ah mais c'est... Bah tu vois, c'est ce que je te disais, c'était ce facteur X, ce facteur complètement intangible qu'amène la magie, que t'es en train de faire ton scénario et que ça peut être le sort le plus simple de tous les sorts qui puissent exister, loin des sorts puissants, qui va amener un dénouement ou qui va amener une issue favorable. Et c'est ça que je trouve très fort. Et c'est ça aussi qui est un défi quand même quand t'es maître de jeu, parce qu'il faut vraiment quand t'as un magicien autour de la table, c'est un peu Auspex à vampire, il faut savoir faire attention, surtout si le joueur qui l'utilise est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet.
Oui.
Faut pas qu'à un moment il te sorte sa carte. Alors j'utilise ce sort là, tu fais oh voilà, puis c'est terminé.
Oui, ou bah, après j'ai un peu le contraire, tu disais les joueurs qui maîtrisent très très bien leur sort, t'as aussi le contraire qui arrive très très souvent, c'est le joueur qui lit mal son sort et qu'à ce moment là il cite pas la bonne créature, enfin le bon type de créature entre guillemets, ou le temps pour lancer le sort c'est 10 rounds ou 1 heure, il fait oh, ouais je suis ici en combat, je fais, ok ça va, y a pas de souci, et puis il me fait bah je le lance bah dans 1 heure quoi.
Et alors, moi j'en ai une autre, qui est la convocation instantanée de Dromige.
Ça connaît pas celle-là.
D-R-A-W-M-I-G, donc livre de sort, page 229. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est le nom. Parce que Dromige, c'est Jim Ward à l'envers, et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et qui montre bien à quel point il y avait ces clins d'œil dans le jeu. Alors, vous touchez un objet qui pèse 5 kg ou moins et dont la dimension la plus longue est de 1,80 m ou moins. Le sort laisse une marque invisible sur la surface de l'objet et inscrit le nom de l'objet sur le saphir que vous utilisez comme composante matérielle. Chaque fois que vous lancez ce sort, vous devez utiliser un saphir différent. 1000 pièces d'or.
Ah oui, oui, quand même. Bah oui, un saphir, ouais. C'est pas donné.
Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser une action, quand vous le désirez, pour prononcer le nom de l'objet et broyer le saphir. L'objet apparaît immédiatement dans votre main, en dépit des distances physiques et planaires, et le sort se termine. Et alors, il y a deux questions. C'est comment on broie un saphir ? Ça, c'est la première. Et la deuxième, encore une fois, c'est la même, c'est comment est-ce qu'on a pensé à ce sort. Parce qu'à un moment, on avait besoin d'un objet, puis on dit, on va créer ce genre de choses. Parce que c'est...
Sans doute, hein.
Mais c'est du puissant, hein. C'est du puissant. Et je... Là aussi, j'imagine qu'à un moment, tu accompagnes quelqu'un pour qu'il lance ce sort. Parce que c'est un sort, en fait, tu dois toucher un objet.
Oui.
Tu vois, il n'y a pas grand-chose... de plus, et puis si tu inscris le nom de l'objet sur un saphir. Donc, quand tu inscris le nom sur le saphir, tu le fais discrètement. Quoi. Ils expliquent pas d'ailleurs le temps qu'il y a. Est-ce que je peux le toucher, que je dois écrire tout de suite le nom sur le saphir. Et tu peux facilement imaginer les voleurs qui sont envoyés, quelqu'un doit lancer le sort sur tel objet. Mmh. Puis une fois que c'est terminé...
C'est quel niveau de sort ?
Sur ça. Niveau 6.
Oui, voilà, c'est ce que je me dis parce que quand t'annonçais 1000 pièces d'or, c'est-à-dire que c'est le genre de sort, en général, c'est au niveau.
Yeah. Oui.
Allez, un magicien ou quelqu'un qui maîtrise la magie jusqu'au niveau 6, est-ce qu'il a encore besoin de voler des objets ? Bon, des objets de quête peut-être, mais bon, ton voleur basique, je ne pense pas.
Oui, ça, je suis complètement d'accord, mais. Ça peut très bien être, par exemple, alors là aussi, bon, c'est là le problème, tu vois, tu peux très bien imaginer que c'est quelqu'un qui maîtrise ce sort et qui a besoin de personne pour l'accompagner. Mais bon, tu te dis, bon, si c'est quelqu'un
c'est
qui
le
maîtrise
méchant.
Ce sort niveau 6, il n'a pas besoin.
C'est le méchant dans l'histoire qui vole l'artefact magique. Enfin, je sais que t'aimes pas ce terme, pas l'artefact.
Non, mais en plus, tu vois, bah là, tu vois, bah, par exemple, on aurait une belle idée d'histoire. T'imagines, il y a eu une grande fête populaire. Et donc l'objet doit faire 5 kg et 1,80 m. Et je sais pas, tu as eu une bague ou une petite statue qui représentait énormément de choses pour l'endroit où on faisait la fête. Et puis celle-ci disparaît dans la nuit. Pourtant, elle est très très surveillée. Et c'est ce sort qui fait qu'elle a disparu. Et il faut retrouver. Il devait y bien avoir un mage quelque part et tout ça.
Ou même encore, tu fais le mystère en chambre fermée. Comme ça,
oui, alors là, complètement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle magie a pu être utilisée?
Oui, quoi, complètement. Complètement. Comme quoi, ça donne. C'est, vraiment, c'est. Je sais que je le dis régulièrement, mais. Quand on veut faire quand on veut faire du fait maison, il y a des moments, il y a juste à lire les descriptions des sorts.
Oui.
Et tu te dis dans quelles conditions est-ce que je pourrais l'utiliser. Et il y a vu ça dans Dragon Heist, la première partie de Waterdeep. Tu as quelqu'un qui avait volé un des objets et qui est abattu par une boule de feu dans la rue. C'est pas très discret, mais il y avait un début d'enquête parce que les gens disaient comment ? Alors si c'est quelqu'un qui a tiré la boule de feu, c'est que c'est à peu près tel niveau, c'est ceci, c'est cela. Mm. Bon, il se trouve de mémoire que c'est un objet magique. Et puis il y avait eu cette phrase qui m'avait beaucoup fait sourire, c'est qu'à un moment tu trouves une trace sur un mur qui correspond à un halfling à genoux.
Oui, oui.
À la hauteur d'un halfling à genoux. Là, tu fais waouh, c'est. C'est pas mal, celle-là.
Ouais, c'est précis au moins.
Voilà, complètement.
Tiens, en parlant de sort bien pour l'histoire, entre guillemets, j'ai envie de te présenter. Là, je vais aller sur ma deuxième liste.
Oui.
C'est Modify Memories. Memory.
Oh oui.
Donc là, typiquement, tu peux modifier les souvenirs de quelqu'un. J'avoue que je ne l'ai plus vu depuis longtemps, mais je pense que tu peux quand même bien modifier les choses, ou même faire en sorte que ce soit un point d'intrigue d'une histoire, ou même tes aventuriers, il se passe quelque chose, tu leur modifies la mémoire, genre le grand méchant ou l'organisation méchante, le fait, et en fait ils ont peut-être été forcés de commettre un crime ou que sais-je, et puis ils se retrouvent en mode « mais qu'est-ce s'est-il passé ?» Et tu as un film à la... y en a plein comme ça, des films d'action où la personne ne se souvient plus ce qui s'est passé avant.
c'est Modify Memories avec IES à la fin
Memory.
Donc de mémoire, ouais, c'est un enchantement niveau 5.
Exactement.
Il dure jusqu'à une minute et vous pouvez influer sur les souvenirs de la cible liés à un événement qui s'est déroulé dans les 24 heures, qui n'a pas duré plus de 2 minutes. Et ça aussi, ça peut être bien quand c'est un des joueurs qui le subit.
Oui, oui, mais c'est ça. C'est ça.
De jouer dans l'interprétation, c'est bien ça.
C'est exactement ça, c'est que ton grand machin peut l'utiliser, ou au contraire, imaginons une princesse cherche à s'évader, et puis en fait, elle a besoin que les aventuriers oublient qu'ils l'ont aidée, pour éviter qu'elle se fasse retrouver facilement, et qu'eux puissent nier en toutes circonstances, nous, on n'a rien fait, alors que c'est eux que tout accuse. Et que même sous certains objets magiques, que pour dire la vérité, ou la Zone of Truth, donc qui est le sort pour savoir si tu dis la vérité ou pas, tu peux être dans la zone et tout ça, et tu fais non, je vous assure, je ne sais rien, j'ai pas été la princesse, nous on était à taverne. Et
ce que tu dis, ça me. J'avais toujours eu, je le ferai jamais, je pense, mais j'aurais toujours rêvé faire une campagne avec que des mages, enfin que des lanceurs de sorts autour de la table.
Mmh.
Et tu vois, là, tu parlais de ce côté enquête avec la princesse et tout ça. C'est-à-dire que il faut avoir donc des joueurs qui connaissent bien les sorts. Mais toi aussi, tu dois, tu les connais également, et ça fait vraiment tout un jeu d'enquête en essayant de trouver le sort qui a été utilisé ou pas, en éliminant contre-sort, en éliminant des trucs qui pourraient court-circuiter ton scénario, bien entendu. Parce que un contre-sort, non.
Mais l'esprit, justement, celui qui passe bien, qui n'est pas contre-sort, c'est le Dispel Magic, qui te permet d'enlever des effets de sort, justement, après que le sort soit lancé. Ça, je l'aime bien encore, dans le sens où c'est après que le sort est pris effet, au moins pendant un tour, ce genre de choses, tu peux enlever les effets qu'affectent une victime, quoi. Et celui-là, il est aussi, je pense, il est pareil, même niveau que contre-sort. Et celui-là, il est moins toxique pour le jeu.
Il est. C'est quoi la distance de Dispel Magic?
Je pense que tu dois toucher, je ne sais plus. Des coups, parchemin.
Parce que. Ce que tu me dis me rappelle. Dans Ravenloft, enfin Curse of Strahd, quand mes joueurs avaient fait. Ils avaient rencontré.
120 feet, 36 mètres.
Voilà. Et ben, ce qui s'était passé, c'est que Baba Lissaga volait sur un crâne. Et il y a un joueur qui dit: bon, elle est à moins de 30 mètres. Je suis oui, oui, oui. Et là, boum, il lance ce sort. Mmh. Ce qui fait que le sort de le vol qu'elle utilisait,
oui.
Elle marchait plus.
Oui.
Et elle s'est cassée la figure.
Techniquement, ça fonctionne sur les créatures, les objets et la magie dans la zone.
Voilà, c'est ça. Et donc, elle se casse la figure. Bon, avant, elle avait lancé un doigt de mort. Bon, ça avait. Mais je trouvais qu'il y avait un côté ultra ridicule. Elle est là, c'est avec sa grande puissance. Et ouais, voilà, tombant dans la boue. et tout ça. Et c'est là vraiment où des fois je me suis dit, voilà, à aucun moment, en fait, je demande à mes joueurs les sorts qu'ils ont. Mmh. Jamais, jamais. Et parce que je trouve que c'est intéressant de finalement savoir. De quel côté, enfin, parce que l'adversaire il est pas non plus au courant des sorts qu'ils ont, mais c'est vrai que quand des fois ils te sortent sur un truc, bah je lance ça, puis en plus c'est pareil, c'est pas le sort le plus puissant du monde, quoi.
Non,
c'est pas plus de météorites. Et là, ce petit sort là, bam, c'est bonjour la honte pour ton grand méchant.
Oui. Après, ce sort-là, tu peux l'utiliser aussi contre tes joueurs, c'est-à-dire, tu vois, qu'ils sont bien buffés ou ils ont pris plein de bonus via plein de sorts, des parchemins, des trucs. T'as là, tu fais, moi, j'enlève tout.
Ça pourrait retirer la magie d'une arme plus 1
Est-ce que.
Si ça retire la magie des objets.
Pas spécifiquement, je pense. Les armes enchantées, ça dépend. Est-ce que c'est un sort qui enchante l'objet ou. C'est un objet magique, parce que il y a une différence.
Renseigne, parce que comme je joue vendredi.
Ok, parce que si c'est un objet magique, il te faut le sort de niveau 8 qui est, je sais plus, c'était quoi, c'est un truc qui détruit, ou en tout cas rend inerte les objets magiques pendant un certain temps. Ou dans
ça pourrait pas marcher.
Oui.
Mais
si c'est un sort où tes joueurs ils ont lancé, je sais plus c'est quel sort qui donne plus 1 à une arme, bah là éventuellement le sort pourrait fonctionner.
Ouais, il est puissant quand même. Hein.
Waouh, ça va, il faut l'utiliser aussi. Hein.
Ouais, oui, il faut l'utiliser. C'est la gomme magique. Ça peut temporairement supprimer les effets d'un objet magique. Tiens, très très bien. Il y en a qui vont faire moins les malins, tiens. Alors moi j'en ai un autre. Bah, c'est pareil, hein. Je vais pas bien loin, je me rends compte hein, par rapport à toi au niveau. C'est un des grands classiques, c'est le fou rire de Tasha.
Ah oui, c'est le marrant.
Une créature de votre choix située à portée de votre champ de vision trouve soudain tout ce qui l'entoure d'une drôlerie hilarante et succombe à un fou rire irrépressible dès que le sort l'affecte. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou se retrouver à terre, neutralisée, incapable de se relever pendant toute la durée du sort. À la fin de chacun de ses sourds, chaque fois qu'elle subit des dégâts, la cible a droit à un nouveau jet de sauvegarde. Alors moi, le truc que je trouve super dans ce sort, c'est pas tant de l'utiliser dans un combat.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est un peu lâche. C'est, tiens, ils vont rigoler, puis ils se font trucider. Mais j'imagine toujours dans une interaction sociale. J'imagine toujours le roi, le bourgmestre de la ville, du pays, ce qu'on veut.
Mmh.
Qui doit faire un truc critique et qui est le méchant dans l'histoire, et soudainement, alors qu'on lui annonce quelque chose et qu'il ne devrait pas rire, tu lances ton sort et il se met à rire, et socialement, il est complètement anéanti après. J'aime beaucoup ce sort là-dessus, non pas parce qu'il pourrait t'amener au combat, mais parce que ça peut amener bien des choses, bien des. Tu vois, par exemple, alors que la personne qui va être touchée par ce sort est super puissante, si elle se met à rire devant quelqu'un, ça peut montrer un côté de faiblesse. Ou juste... Il y a énormément de choses, énormément d'histoires qu'on peut créer autour de ce sort.
C'est pour ça que j'aime bien aussi, dans la même optique, le sort X, qui est utilisé par les Warlocks pour mettre des dégâts en plus. C'est vraiment ça, quasiment, l'utilité du sort primaire. Mais il te permet aussi de faire en sorte que les compétences associées à une caractéristique, la caractéristique que tu as choisie, font en sorte que tu as des avantages quand tu la lances, si je me souviens bien. Et là, si tu prends le charisme, quand il fait son discours de politicien,
ouais.
Bah, il le fait à des avantages. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait en sorte que tu fais rater tout le plan à la personne. C'est parce que tu as mis à ce sort-là, qui est un sort à la base utilisé beaucoup pour les dégâts. Et justement, ça fait en sorte qu'il est pénalisé et ça dure une heure et c'est au loin, tu vois. Genre, tu le lances en croisant dans les couloirs. Ah, monsieur le candidat là, bonne chance pour votre discours. Et il est à vous, c'est ça, ouais. Et puis, quelques minutes après, il est pénalisé.
Et c'est ça. Et ça amène des sorts qui sont des utilisations de magie qui font pas que les magiciens soient là pour être au combat, mais ça permet, comme tu le disais, la déstabilisation, et je trouve que ça rajoute beaucoup plus.
Oui.
Tu en as un autre ?
Oui, un peu dans la même optique, beaucoup roleplay, tout ça, celui que j'aime bien, c'est Cérémonie, qui est un sort de niveau 1, qui est un rituel. Il est découpé en plusieurs. Donc, il y en a basique, c'est Bless Water. Donc là, tu fais en sorte que l'eau que tu as dans une gourde devient de l'eau sainte. Mais bon, ça, c'est vraiment le truc basique, on va dire, pour le combat. Mais à côté de ça, t'as tout plein de trucs qui sont intéressants. Ou tu peux faire dans la cérémonie, c'est cérémonie de l'âge. Et donc à ce moment-là, tu peux donner des bonus à certaines personnes qui passent à l'âge adulte. Ou tu as la cérémonie de mariage aussi, qui donne aussi des bonus aussi à des gens, mais qui te permet aussi d'officier en tant que personne qui fait le mariage, qui est là pour accompagner, ou même les rites funéraires. Et il y en a un autre qui est Dedications. Celui-là, je sais pas exactement ce qu'il fait. Mais bon, voilà, c'est un sort. Il y a plein de petits effets. Mais je trouve que pouvoir avoir le mariage, les rites funéraires, et aussi le côté de l'âge, ou même il y en a, c'est un attainment. Ça permet de restaurer l'alignement d'une personne qui a changé.
Voilà. La nutrition.
C'est ça. Donc, et si tu joues ces cérémonies-là, ça rajoute des grands instants de roleplay, je pense, et que c'est un bête sort de niveau 1. C'est en Xenatar, et c'est disponible pour les clérics et les paladins. Et donc, je vois bien, justement, ce côté-là où ton paladin, c'est pas juste le gros bourrin et tout ça, mais c'est celui aussi qui passe quand il passe dans les villages, et c'est peut-être lui qui dirige la cérémonie, les garçons, les jeunes filles deviennent adultes. C'est lui, oui. Monseigneur, il passe et on lui demande est-ce que vous pouvez faire la cérémonie, tout cela, pour le passage de l'âge adulte, ou diriger le mariage selon les trucs de son dieu, etc. etc. Je trouve que ça te rajoute vraiment du roleplay, ce sort-là.
Ah oui, je suis complètement d'accord. Là, tu mentionnais que c'était on retrouvait dans Xenatar. Alors, c'est vrai que c'est quand même une des choses qui sera bien. C'est dans cette nouvelle édition, c'est quand ils vont tout remettre. Je sais pas combien de sorts il y a au-delà du Players, mais ça doit faire quand même pas mal parce que. Ou c'est même pas tant en fait dans le.
Son parchemin magique, je pense, en 5ème édition, il m'indique qu'il y a 506 sorts.
Vache. De toute façon, quand tu regardes tu regardes ton players, tu vois que ça fait quand même. C'est une bonne. C'est une bonne base. Hein.
Oui, je pense que c'est les trois quarts des sorts qui se retrouvent là. Bon, au fur et à mesure, ils t'en remettent de ci, de là parmi les suppléments ou.
Mais ça sera rarement plus des sorts. Ceux qui rajoutent, c'est quand même des sorts qui ont une certaine portée. C'est parce qu'ils vont pas rajouter un repérer la saucisse dans dans la choucroute. Non, ça sera. Oui. Ça sera pas,
on te la laisse en brousse.
Alors moi, je vais t'en proposer un autre.
Oui.
J'en avais déjà parlé, mais c'est pour moi celui qui fait le plus rêver. C'est le manoir somptueux de Mordenkainen.
Ah.
Qui est invocation. Bon, niveau 7, faut y arriver. faut y arriver, même s'il y avait eu la petite hutte de Léomund dont tu parlais.
Oui.
Vous invoquez une demeure extraplanaire à portée qui persiste pendant toute la durée du sort, donc il va durer 24 heures. À vous de choisir où se situe sa seule entrée. Cette dernière scintille légèrement et mesure 1,5 mètre de large et pour 3 mètres de haut, donc ami de Minecraft, bonjour. Vous et toutes les créatures que vous désignez lors de l'incantation sont libres d'entrer et de sortir de cette demeure extraplanaire tant que son portail reste ouvert. Mmh. Un splendide vestibule s'ouvre derrière le portail. Vous pouvez disposer le plan des lieux comme bon vous semble, mais la surface totale ne doit pas excéder 50 cubes. Et chaque cube mesure 3 mètres d'arête. L'endroit est meublé et décoré selon vos souhaits, et blabla, et blabla. On peut même aller chercher des affaires, faire le ménage, raccommoder, plier les habits, allumer la cheminée. Vous pouvez vous rendre partout dans la demeure, mais il parle, oui, des serviteurs qui sont dedans. Toutes les créatures qui se trouvent dans l'espace extradimensionnel sont expulsées dans les emplacements libres les plus proches de l'entrée. Quand ça s'arrête. Je le trouve extraordinaire parce que, comme je dis toujours, t'es en plein désert et puis tu le fais apparaître. Mmh. Il faut un portrait miniature gravé dans de l'ivoire, un bout de marbre poli et une minuscule cuillère en argent. Chaque objet doit en valoir au minimum 5 pièces d'or. Et ce que j'adore, c'est que là aussi, c'est ce sort-là, je sais pas pourquoi, mais j'imagine les joueurs en plein désert, mourant de faim quasiment. Et il y en a un qui lance le sort. Dedans, c'est écrit quand même. Hein. L'endroit est meublé. Une équipe de 100 serviteurs s'occupe de vous et de tous ceux qui pénètrent dans la demeure. À vous de décider de leur apparence. Ils obéissent aveuglément aux ordres. Chacun est en mesure d'accompagner n'importe quelle tâche à la portée d'un serviteur humain. Et c'est... Voilà, je le trouve superbe, ce sort. Parce que tu peux aussi... t'en servir si tu vas pas bien, tu peux... Si tu rentres dans un royaume et faire un petit peu d'esbrouffe. Bref, il y a énormément de choses qui fonctionnent avec ce sort.
Est-ce que ce sort a une permanence éventuellement si tu le lances pendant X temps ou pas?
Alors non, ils disent bien qu'il fait 24 heures.
Parce que justement, je vais te relancer ton manoir par un temple.
D'accord.
Donc Temple of the Gods. Donc qui est de niveau 7 conjuration, casting time 1 heure et dure 24 heures. En termes de composants magiques, tu n'as besoin que d'un symbole qui fait au moins 5 pièces d'or. Donc c'est un peu comme toi, ça fait écho à ça. Et donc tu peux créer un temple jusqu'à 120 feet de côté. Donc, qui était 32, 30, 36, je sais plus exactement. Donc, par là.
Oui, on va dire, voilà.
Et il y a juste toi qui décide quand l'apparence que ça prend et qui peut rentrer ou pas dedans. Donc là aussi, c'est un peu dans la même idée. Ça te protège contre les influences extérieures de divination. Tu peux pas avoir de divination à l'intérieur du temple. Et ou même plein de trucs de protection par rapport au divin. Tu bénéficies d'une meilleure sauvegarde. T'as aussi toutes les protections classiques contre d'autres entités et tout ça. Et à côté de ça, si le côté éthéral, dispel magic, anti-magic, désintégration, ça passe pas, tu vois. Je reviens sur ce que j'ai dit. Désintégration fonctionne. Il y a juste les deux autres trucs qui permettent de justement annuler la magie qui ne fonctionne pas là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que si tu lances tous les jours ce sort, au même endroit pendant un an, le temple est permanent.
Waouh! Et ça coûte combien en tout en composantes?
Ça ne te coûte pas de composante, tu dois juste avoir une composante qui est ton symbole magique, ton symbole divin, pardon, qui est au moins de 5 pièces d'or. Tu dois juste pouvoir lancer le sort tous les jours pendant une heure. Tu fais oh lolo, oh lolo, et puis à chaque fois, ton temple se maintient, et au bout d'un an, tu as un temple.
Ouais. J'ai ce côté, mais vraiment, c'est un faible pour tous ces sorts-là où la magie a. En fait, c'est parce que, tu vois, il y a de tous ceux que j'ai mentionnés, par exemple, il n'y en a aucun qui. Il n'y en a aucun qui est pour le combat. Je crois pas. Hein. Non, voilà. Mais
Bon, qui peut s'utiliser en combat, genre ton Tasha pour rire, mais justement tu spécifies
que tu
n'utilises pas pour combat.
Oui, et puis il y a un côté, tiens, ils vont se marrer, donc enfin, je il y a quelque chose que j'aime pas trop. Et c'est pour ça, parce qu'on arrive à la fin de ton sort sur Gueule de Bois, c'est que on a tendance à trop peu s'émerveiller devant la magie. C'est-à-dire que alors je suis d'accord, on est un monde de donjons et dragons, voir de la magie c'est quelque chose qui est courant, ouais. Mais néanmoins tout le monde n'a pas accès à de la magie, et que voir de la magie c'est magique, boum. Et je trouve qu'on a tendance à pas assez s'émerveiller.
Oui, après, je pense que ça dépend un peu comment tu joues ta campagne. Majoritairement en D&D en 5e et jouer en high fantasy, on a beaucoup de magie de tous les côtés, c'est vrai. Et donc forcément, ce côté magique que toi t'aimes bien un peu sauvegarder, tu l'as pas. Je pense que tu l'aurais plus si tu jouerais vraiment dans un univers où la magie est très très peu présente. Les classes magiques sont très très peu présentes aussi. Ou c'est que les joueurs qui les ont, éventuellement. Ou que les méchants, hein. Donc c'est vraiment une catégorie de personnes, les élus on va dire ça, qui ont accès à ce genre de classe. À un moment j'ai fait une campagne comme ça où la majorité des gens n'avaient que des belles classes martiales, et même les classes martiales vraiment sans le côté magique, vraiment guerrier, barbare, genre de choses. Et si tu voulais d'autres classes, tu devais essayer de voir si tu avais une... c'était un délu ou un machin comme ça, bref. Mais bon, ça bride pas mal tes joueurs. Forcément, faut qu'ils signent la composante de la campagne avec. Et à ce moment-là, bah oui, quand ils sont tombés sur un magicien, ils sont en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?»
Non, c'est ça, parce que le fait est que dans un monde où tu joues des aventuriers, t'as déjà vu de la magie. Donc ce qui fait que toi ton personnage il est blasé, il sait déjà ce que c'est tu t'es battu trois fois avec ton même groupe, tu sais bien que le magicien il va lancer l'âme tonnerre et tout ça. Et ce qui fait que ton personnage qui est blasé, toi aussi tu le deviens, et où souvent la seule admiration qu'on va avoir c'est ah ouais il en fait des dégâts ce sort. On n'a pas ce côté, je voulais d'ailleurs faire une émission, il faudra que je la creuse dessus, sur un conseiller MJ, sur l'enchantement dans le jeu de rôle. Et quand tu lis ces sorts, notamment de faire apparaître des maisons, qui sont des choses qui sont vraiment utiles, qui sont utiles dans... parce que tu devines bien que les joueurs ne sont pas forcément dans un bon état. Moi, je trouve qu'il y a ce côté « Waouh, on nous sauve la mise enfin, !» C'est des sorts... Waouh, en fait, on va avoir à manger, on va avoir un toit pour dormir.
Oui.
Et c'est ça, moi, que j'aime beaucoup. Alors que, effectivement, des sorts comme mur prismatique, qui est ultra bourrin.
Oui.
C'est un sort, l'enchantement, on dira, waouh, bah, tu vois, on dira, qu'est-ce qu'il est puissant.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a certains.
On dira, qu'est-ce qu'il est utile. C'est pas la même chose.
Mais c'est surtout qu'on a certains sorts qu'on a tendance à oublier. Et c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on a fait notre épisode sur la nourriture, il y a un sort en particulier que j'ai oublié de préciser. Je l'avais dans mes notes, mais voilà, lors de la discussion, j'y pensais plus. C'était Hero Feast. Donc là où tu fais un festin de héros. Bon, c'est un sort qui coûte, je sais plus, 1000 pièces. Enfin, un diamant de 1000 pièces d'or. Donc voilà, c'est pas bon. Après, ça te
tout
permet...
Tout le monde finit son assiette. Hein.
Oui, tout le monde finit son assiette. Mais c'est genre vraiment de la nourriture divine, tout ça, qui te permet d'avoir des points de vie temporaires en plus. T'immunise à la peur, donc...
Oui.
Si t'as un gros adversaire à faire avant, genre un dragon typiquement, genre des choses qui pourraient créer des effets de peur et tout ça, tu fais ton festin avant, et bon, même si tu meurs, bah au moins, t'auras fait un bon festin avant.
Mais tu vois, regarde, c'est... tu lances... d'accord, c'est des sorts puissants, mais... Tu lances le manoir magnifique de Mordenkainen, et puis tu dis... puis t'as l'autre qui dit, bon bah tiens, moi je vais faire Hero Feast. Et là, tout le village qui est à côté, qui a connu que des malheurs et tout ça, tu les invites pour la soirée.
Ouais.
Et moi, je trouve que s'il y a un truc qui est infiniment plus classe, qui amène tant, et puis que c'est de l'étoffe de légende, c'est-à-dire que tout le village racontera. Et là, ils ont fait apparaître ce manoir là-bas, là où il y a le champ, où il n'y a plus rien. Ben là, oui, il y avait un manoir. Et qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a... Moi, je trouve voilà, que c'est à... on a un côté d'enchantement et d'émerveillement à la manifestation de la magie quand on a ça, parce que... Bah voilà, parce que c'est pas rajoute plus de D4 et vous rajoutez un D6 de plus si vous utilisez sur un slot supérieur.
Tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Tout à fait d'accord.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi, hein, quand t'es en plein combat, hein, tu vas l'éviter, le mort de Nkainan. C'est oh, pas possible, il nous fait encore son manoir. Mais voilà, moi c'est ça. Et je trouve qu'on. Tout comme on disait à un moment dans l'épisode sur les dragons, que les dragons c'est des créatures somptueuses et magnifiques. Bah là, la magie étant tellement courante, on a tendance à perdre ça. Mais
tu me fais penser justement, tu disais ouais, la magie doit être magnifique, tout ça. Et puis je pense à un de mes joueurs, il fait ouais, prestidigitation, ouais, je fais en sorte que le roi il pète à chaque fois qu'il passe à côté de nous.
Oui, c'est ça, ou je lance le sort Poirus, tu sais, voilà. Mais bon, après.
Il y a deux côtés la magie.
Il y a deux côtés là-dessus, oui, ça. Mais les joueurs sont toujours. Sont toujours très forts pour te faire découvrir les côtés cachés. Mais ce que j'aime, enfin, c'est moi je me rappelle quand j'avais commencé à jouer alors je jouais à D&D, hein, et c'était parmi mes tout premiers scénarios, et il y avait c'était un clerc et qui avait fait des soins mineurs. Et c'est marrant parce que j'ai un copain moi, qui m'avait dit qu'on parlait de l'enchantement qu'on avait vu sur les premières parties de jeu, et lui il me disait là où moi le soin mineur ça avait été quelque chose où quand j'avais vu à la table le magicien qui lance projectile magique, j'ai fait waouh, parce que c'est quelque chose que moi mon personnage ne pouvait pas du tout faire, c'est une espèce de barbare ou un truc comme ça, et j'avais vraiment ressenti un à la fois une admiration pour le personnage mais aussi pour le joueur, parce que complètement oui. C'était les débuts, mais j'aimerais parfois que cet enchantement pour ces belles choses puisse revenir. Bon, après, évidemment, je pense que ça sera pas possible parce que.
Ouais, non.
De toute façon, comme dans les jeux.
Oui, le côté. On a toutes les clés de la fantasy, déjà à l'heure actuelle, que ce soit par les jeux vidéo ou ce genre de choses, que faire. Ah, je lance Missile Magic maintenant, t'es en mode. Ouais, bah, tu lances 3 pétards.
C'est ça. C'est. Comme c'est vrai qu'on a tendance à dire. Bon, bah, tu frappes, lance un dé. Je lance ce sort, il fait quoi? Bah il fait tant de dégâts, ça. Ok, puis tu lances les dés. Je pense que la phase de description des sorts, faut qu'elle soit vraiment importante. Par exemple, là, je repensais à ça dans Dragonlance, là, les personnages ont rencontré un PNJ et dès que je le jouais, je mettais mes doigts d'une certaine manière. Et là, en fait, les joueurs se disaient, oh là, il est prêt à utiliser un sort, mais lequel?
Oui.
Et puis, à un moment, il sympathise, et puis, bah, vous voyez que ses mains... Enfin, j'ai pas dit que je jouais avec ses mains, c'est que j'ai remis mes mains normales.
Oui.
C'est tous ces événements, parce que je trouve que dans ce VSM, donc vocal, somatique et matériel, oui. C'est ça, pour les c'est composantes, il y a un univers de jeu, et c'est un univers de jeu qu'on a tendance à effacer.
Tout à fait. Et d'ailleurs, petit point sur les sorts. Sur Tasha, vous pouvez personnaliser. Il vous conseille de personnaliser vos sorts. Je pense que vous avez pris l'exemple de Missile Magic, où en fait, un sorcier, il lançait pas juste des dards, c'était des poulets. Parce que c'était un alphelin fermier à la base. Et du coup, la forme que prenait ces Missile Magic, c'était des poulets volants.
J'ai l'impression d'être dans le Muppet Show. Mais oui. Mais oui, donc en fait, ouais, tu vois, il y a effectivement, ils ont pris ça un petit peu en compte sur cette et d'ailleurs, ça peut faire peur. Parce que, regarde, il lance quelque chose vers toi et soudainement, tu vois un aigle qui prend une forme énorme et tout ça. Alors après, le joueur dira, ah bah c'est bon, c'est que projectile magique. Oui. Mais au moins, l'espace d'un instant, quand
oui,
tu changes,
il se demande c'est quoi. Il se demande
voilà,
c'est quoi.
Qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Si vous aussi vous avez des sorts que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à nous le mettre sur en commentaire Facebook.
Par contre, on bannira la première personne qui dit boule de feu.
Oui, voilà.
À moins que ce soit pour préparer le cochon rôti.
Voilà,
ok. Argumenté alors.
Là, tu lances ton manoir somptueux, ton festin de héros, et voilà, un petit feu d'artifice avec une boule de feu. Donc, on reparlera de toute façon, je pense, de ces sorts, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, 500 sorts.
Oui.
500. Voilà, c'est énorme. Voilà, c'est énorme.
Sans parler des sorts que les joueurs pourraient décider d'inventer.
Mmh. Et ça aussi, c'est tout un art, je trouve, d'inventer un sort.
Oui.
Parce qu'il faut, il faut pas que ce soit trop puissant, déséquilibrant, mais il n'y a pas à dire. Ça montre à quel point ce jeu est fait pour le fait maison. Ça, de toute façon, on a tendance là aussi à parfois s'en... On a parfois, je trouve, tendance à l'oublier parce qu'il y a beaucoup de suppléments officiels qui sortent, mais qu'on peut découvrir bien des choses juste par ces trois livres, même pas, ces deux livres, le Players et puis le... évidemment le DMG. Mais en tout cas, Fabrice, nous oui. allons pouvoir sortir de la taverne. La semaine prochaine, on va faire un sort qui sera trouvé sujet. Mais ne vous inquiétez pas. On le trouvera, peut-être qu'on va aller dans la continuité et puis parler des grands magiciens de...
Ah, peut-être.
Dessus. Voilà, on verra tout ça. Je te souhaite une excellente semaine, Fabrice, et vraiment. À vous tous, bien entendu. Et en attendant, je n'aurai pour ma part que deux choses à ajouter. Tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles.
À la prochaine fois.